Voilà. Nous allons commencer par donner la parole à Yuri Mandajewski, qui a déjà été abondamment présenté ce matin, et dont à qui je laisserai le soin d'expliquer la portée de son exposé, puisque le titre est assez long, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Yuri, vous avez la parole.
Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai une tâche qui n'est pas aisée,
parce
que je vais devoir, sur la base de données scientifiques, exposer le projet, la conception que nous essayons de mettre en œuvre depuis maintenant quelques années. Je commencerai par exposer un certain nombre de principes, des principes que je me fais l'écho depuis déjà un certain nombre d'années, depuis l'époque où j'ai commencé à m'occuper des problèmes de santé des personnes qui se sont trouvées exposées aux retombées de la catastrophe de Tchernobyl. Les informations objectives, l'évaluation objective de la situation pour protéger la santé de la population, c'est une nécessité absolue. Lorsque je suis arrivé en 1990 dans la région de Gomel, je ne comprenais pas très bien, je comprenais assez mal ce qui se passait sur place. Et pour commencer à travailler, pas seulement pour mettre sur pied une université médicale, pour préparer le personnel, mais encore pour faire des travaux de recherche sérieux, il fallait une approche globale. Et nous avons mis cela sur pied, et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment cette approche globale en matière de protection sanitaire de la population peut servir de base pour mettre en place des programmes plus vastes. Nous essayons de ne pas être démagogues, nous essayons de nous écarter des grandes phrases, des beaux discours qui conduisent en erreur les populations. Tout d'abord, revenons aux années 60 du siècle dernier. Les informations objectives qui figurent sur cette diapositive n'est pas seulement les informations maintenant des partisans de l'énergie nucléaire. Là, ce sont des informations qui viennent du ministère de la Santé et de l'Union soviétique. Ce sont des années 1974. Il s'agissait de la contamination des produits alimentaires dans certaines parties de l'Union soviétique. Du Bélarus, de l'Ukraine, de la Russie, de la Lituanie et des États baltes. Dans les années 60, effectivement, on a constaté qu'il y avait une pollution radioactive au césium importante des produits alimentaires. Voici une carte que je vous demande d'examiner avec attention. Il faudrait qu'on l'étudie attentivement partout. C'est la carte de la pollution du territoire de Bélarus dans les années 60. Lorsqu'on a commencé à étudier les conséquences de l'accident de Tchernobyl, on a retrouvé une carte à peu près identique, avec des niveaux de pollution à peu près identiques. Alors, de quoi s'est-on aperçu? On s'est aperçu qu'il y avait une radiation qui existait avant Tchernobyl. C'est une photocopie, et ce n'est pas une carte qui est imaginée, c'est une carte tout à fait réelle, qui témoigne du fait que la population de la partie européenne de l'ex-empire était déjà exposée à une activité importante d'éléments radioactifs, notamment par le lait. Aujourd'hui, on peut dire qu'on analyse la situation sanitaire des gens sur plus d'un demi-siècle. On analyse en fait les effets de cette radiation, de ce rayonnement interne sur plus d'un demi-siècle. Alors, cette carte, on a essayé de cibler, et il a fallu des efforts très importants pour montrer le fruit du travail du plus grand institut de l'Union soviétique, parce que ces informations après Tchernobyl ont été dissimulées. Nous avons des informations rédacteur d'un journal russe très important qui m'a interviewé n'a pas osé ensuite publier les informations qui en fait figuraient dans les ouvrages qui étaient publiés à l'époque soviétique mais qui ont disparu maintenant, qui sont tenus secrets. On constate une augmentation de la mortalité, une baisse de la mortalité au Bélarus, pas seulement depuis les années de Tchernobyl. C'est un phénomène qui a commencé plus tôt. C'est un phénomène qui a commencé avec la contamination radioactive de la population. Indexe démographique, avec Belarus, on voit qu'il y a négatif. On peut, bien entendu, habiller ces chiffres, on peut les décrire de différentes manières, on peut essayer de les présenté comme on veut, comme ça se fait actuellement dans les milieux officiels. L'état de santé de la population est catastrophique. Elle est n'avantageuse, comme vous avez parlé de la situation des enfants. Voici l'évolution des taux de mortalité dans les zones contaminées. Je souligne que tout cela, c'est avant Tchernobyl et après Tchernobyl. Dans les régions de Gomel, les régions voisines de Gomel, vous voyez, les indices de mortalité étaient déjà très importants, jusqu'à 30 pour 1000. Les indicateurs dans les villes de Gomel et de Grodno sont inférieurs. Et voici maintenant le secteur du Vankov en Ukraine, de l'autre côté de la frontière, dans la région de Kiev. C'est un district qui est à 30 km de la centrale. On voit là des chiffres très importants de mortalité qui sont à peu près identiques à ceux de ces autres districts. Et toute la région de Kiev, d'ailleurs, connaît des taux très élevés. Jusqu'à 17-18 pour 1000. J'ai obtenu des informations sur le secteur du Vankov. Les informations sont tout à fait récentes. Un très grand nombre de décès ont été enregistrés au cours de la récente. Cette mortalité, elle continue à être très élevée. C'est bien entendu quelque chose de tout à fait tragique. On constate aussi une augmentation de la mortalité chez des gens qui ne sont pas des retraités, mais des gens qui sont en âge, c'est une population active, surtout parmi les hommes. Parmi les causes de décès, on a d'abord les maladies cardiovasculaires au premier rang et ensuite les maladies oncologiques, les cancers. Ce sont les pathologies dominantes que l'on constate aujourd'hui. Ce graphique concerne la Russie, le Bélarus, l'Ukraine. Les pourcentages sont pour ainsi dire identiques. La population a reçu une dose énorme de radiation plus ou moins comparable et les conséquences sont aussi comparables. Le fondement même de toutes nos réflexions, c'est que le césium 137, et cela a été montré sur la base de rapports d'autopsie, n'est malheureusement il n'y a pas un seul laboratoire qui a continué ses activités, les activités qui avaient été entreprises par notre laboratoire, et je sais très bien pourquoi, c'est qu'on ne l'a pas autorisé. À l'époque où j'étais recteur de l'université, où je dirigeais ces services de pathologie, où je m'occupais des études d'expertise d'anatomie, de pathologie, on pouvait le faire, et ce travail était fait à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, plus personne ne confie ces données. Enfin, ça se fait encore dans on a encore des traces de ces travaux pour les travaux réalisés sur les animaux. Mais officiellement, et la médecine officielle, refuse de reconnaître que le césium 137 concerne un grand nombre d'organes du corps humain, notamment la thyroïde. La thyroïde n'est pas concernée uniquement par l'iode. Tout le problème est rendu beaucoup plus complexe, beaucoup plus grave par le fait que le césium concerne également le cœur, le foie, toute une série d'organes absolument essentiels qui, eux aussi, incorporent le césium. C'est ainsi que j'en viens à l'objet de mon exposé, qui est le syndrome d'incorporation chronique des radionucléides à période longue. Ce syndrome, c'est le fait que les personnes qui vivent dans des zones contaminées par la radiation ont dans leur organisme et dans les organes précis du césium radioactif. Donc tous les organes simultanément reçoivent un rayonnement et subissent les conséquences de ce rayonnement. Cela empêche le fonctionnement normal de l'organisme. Il ne faut pas analyser les choses sous l'angle de la pathologie de tel ou tel organe, mais plutôt de la contamination de l'organisme tout entier sur un plan global. Bien entendu, nous, les médecins pathologistes, nous devons voir le fonctionnement de l'organisme dans son ensemble, la régulation de l'ensemble du système pour toutes les fonctions vitales. Et cette action du sodium est particulièrement dangereuse. Je n'aime pas le terme de faible dose. Il n'y a pas de faible dose pour le césium. Ça n'existe pas. C'est un radionucléide. Et je voudrais rectifier un petit peu la réponse qui a été donnée tout à l'heure par un des exposants. Le césium radioactif, il émet un rayonnement bêta et un rayonnement gamma. Et en outre, il perturbe le fonctionnement des organes. C'est donc un radionucléide extrêmement dangereux pour la santé. Ici, nous avons des expériences sur les animaux qui confirment ce que nous avons constaté lors des autopsies. Situation identique. Des problèmes, notamment, concernent le muscle cardiaque. Ici, l'accumulation dans les muscles du césium. Lorsqu'on a des doses de 200 becquerels dans l'organisme, on constate que les muscles sont gravement atteints. Donc, lorsque l'organisme est touché par ce syndrome, par une exposition longue, prolongée pendant des années au césium radioactif, les gens ont du césium 10 becquerels ou 20 becquerels par kilogramme à l'intérieur de leur corps. Et il y a un processus qui se déroule, qui est un processus de mutation, avec des mutations de cellules somatiques et notamment des cellules sexuelles. Le nombre de mutations est important. En outre, le césium perturbe le fonctionnement des échanges d'énergie. 40 ou 50 becquerels par kilogramme dans l'organisme, dans un organisme vivant, cela perturbe grandement les vecteurs énergétiques entre les cellules. Cela touche le cœur, le foie, les reins et d'autres organes vitaux. Pour illustrer ce processus, nous avons pu montrer que même une dose de 10 becquerels par kilogramme montre déjà que cela affecte déjà des fonctions vitales. Avec 20 becquerels par kilogramme, on constate à ce moment-là des troubles plus marqués, avec une altération des phénomènes électrophysiologiques. Nous avons, en analysant les données que nous avons reçues dans l'université médicale de Gomel, à l'époque où je dirigeais ces travaux, donc de 1990 à 1999, nous avons publié toute une série de publications que vous trouverez en langue française qui ont été publiées l'année dernière et cette année, notamment ce livre qui a été publié en russe, qui est assez complet. Nous montrons que 10 becquerels par kilogramme de poids, diapositive suivante s'il vous plaît, encore, et nous reviendrons ensuite en arrière, voilà, 10 becquerels par kilogramme, on constate ici la fréquence, l'augmentation rapide de la fréquence des troubles de la conduction du cœur chez les enfants. C'est un effet qui ensuite diminue avec les doses, la concentration, parce que le caractère des modifications pathologiques se modifie. Avec une dose de 10 becquerels par kilogramme, c'est une dose qui provoque un certain nombre de troubles de défauts génétiques qui ont des effets en aval, des effets par la suite. Donc c'est un effet provocateur de faible dose, de petite dose de césium. Et c'est très important à comprendre pour la radioprotection de la population. Des gens qui, pendant de longues périodes, ont vécu dans des zones contaminées par les radionucléides sont extrêmement vulnérables à des doses très réduites d'éléments radioactifs. La population est très différente par sa nature par rapport à une population qui n'a jamais vécu dans des zones contaminées. Donc il y a une modification du métabolisme et il y a cet effet de provocation, de blocage du système qui a notamment ses effets sur le cœur. Et par la suite, lorsqu'on augmente les quantités de césium dans l'organisme, cette quantité augmente parce qu'on continue à s'alimenter avec des produits contaminés, alors il y a des troubles du métabolisme qui apparaissent. J'aimerais qu'on revienne en arrière de trois diapositives. Quand on parle de troubles métabologiques, de troubles du métabolisme, voici les mitochondries de cellules du cœur. C'est le système qui produit l'énergie, les molécules qui permettent ensuite d'être des vecteurs d'énergie à l'intérieur de l'organisme. On a pu démontrer que l'incorporation de césium jusqu'à 45 becquerels par kilo vient troubler ce cycle énergétique. Lorsque je vivais au Bélarus, à Gomel, nous constations beaucoup de cas chez les enfants de troubles de ce genre. À Gomel même, le niveau moyen 1995, c'était de 30 becquerels par kilo pour les enfants à l'époque. Donc, ce sont les cycles énergétiques qui sont affectés chez ces enfants et nous avons enregistré des cas de mort subite. Je me souviens de cas où certains de mes étudiants décédaient subitement au cours d'un exercice physique. J'ai entendu des cas similaires aujourd'hui au Japon. Malheureusement, il n'y a pas de données statistiques sur ces effets. Car il faudrait pouvoir faire des recherches pour mieux protéger ces personnes. Alors, les gens qui, pendant de longues périodes, ont été exposés à un rayonnement radioactif sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables, même lorsque la dose de césium radioactif est très faible.
Vous avez déjà vu cette diapositive.
Nous avons pu vérifier à maintes reprises les résultats de ces recherches. Ce sont des recherches qui montrent à quel point l'activité du cœur chez l'enfant ou chez l'adulte dépend de l'incorporation de césium radioactif dans l'organisme, à quel point est affecté par cette incorporation.
Je voudrais passer rapidement là-dessus.
Ça, c'est une coupe histologique du myocarde d'une personne qui a connu un décès par mort subite. C'est très frappant du point de vue morphologique. Les spécialistes qui connaissent ces questions sont toujours très frappés, car c'est une image très intéressante. L'anodème intermusculaire, et on voit la fragmentation des fibres musculaires. On a fait des expériences avec les animaux. On a irradié les animaux avec une dose de 6 grammes. J'ai lu cet article et j'ai été frappé. On constate exactement la même morphologie que nous avions décrite chez des animaux qui n'avaient que 50 ou 60 becquerels par kilo. Donc, ça veut dire qu'un rayonnement extérieur de 6 grammes a des conséquences équivalentes à celui d'une irradiation interne de 50 ou 60 becquerels par kilo que l'on a encore chez des gens aujourd'hui. Donc vous voyez à quel point ce rayonnement intérieur est dangereux, à quel point l'incorporation du césium radioactif a des conséquences négatives sur l'espérance de vie des gens. Coupe histologique rénale est aussi très intéressante. Nous constatons ce syndrome qu'on appelle des glaçons flottants. On constate que le césium 137 empêche le phénomène d'alimentation de ces cellules qui disparaissent, qui ne laissent plus qu'une ombre, et c'est ce qu'on appelle le syndrome des glaçons flottants. Alors, le rein, bien entendu, évacue le césium. Les gens qui vivent dans les zones polluées par ce radioactif ont des problèmes d'insuffisance rénale constante. C'est un phénomène latent et qui ne cesse de s'aggraver au fur et à mesure que les gens vivent plus longtemps dans ces zones. Et c'est aussi un des éléments très importants de la pathogenèse et des causes de mortalité cachées de la population. C'est un phénomène qui touche les reins. Coupe du foie, là on a un processus pathologique qui montre aussi, qui est une illustration, je dois aller vite. Ici nous voyons la croissance de l'incidence des anomalies congénitales en 8 ans, de 2000 à 2008. Vous voyez qu'on a une multiplication presque par 2, c'est la moyenne pour l'ensemble du Bélarus, des cas d'anomalies congénitales cardiaques. 30 à 35% ce sont des anomalies cardiaques sur l'ensemble forme des anomalies congénitales. Ce qui est très caractéristique aussi parmi ces troubles, ce sont des troubles qui touchent le visage, le cerveau, les reins, le cœur. Ce sont des troubles génétiques qui ne se réalisent que lorsque l'organisme est touché par un facteur de déclenchement, qui est précisément le césium radiographique. Divers cas de ces troubles. Et là, c'est une expérience sur des hamsters de Syrie où nous avons inoculé du césium 137. On trouve des troubles exactement similaires. Je dois dire que dans mon expérience de thératologie, c'est la première fois que je constate des malformations qui peuvent si aisément être induites, être causées. Et bien voilà la cause de ce que nous constatons aujourd'hui chez la population humaine. Diverses variantes, passons. Il y a également des troubles hormonaux dans la concentration de cortisol. Là aussi, c'est une source de maladie, c'est la gêne. C'est la cause des problèmes de malformations congénitales au cours des premières semaines. La cataracte aussi, la cataracte, Madame Bandajewska en a parlé, nous avons démontré pour la première fois la dépendance du phénomène de la cataracte à ces rayonnements. Il a été très difficile à l'une de mes étudiantes à Moscou de défendre cette thèse lorsqu'elle a montré ses graphiques, parce que c'est difficile de le prouver. On en parle aujourd'hui, mais en 1996, c'était une grande découverte à l'époque qui a montré que la fréquence de la cataracte dépendait des radionucléides, notamment du césium 137 incorporé. Ainsi, il existe un syndrome qui est lié par l'action du césium radioactif sur tous les organes. Et nous pouvons, sur la base de l'existence de ce syndrome, bâtir une stratégie qui doit permettre de favoriser la survie des gens. Il ne s'agit pas de réduire les doses. La question essentielle, ce n'est pas les doses. Les personnes qui vivent dans des zones contaminées on doit trouver des moyens pour qu'elles n'ingèrent pas de radionucléides. Le modèle que nous avons sur pied grâce à une aide du Parlement européen en Ukraine est un projet intitulé Modèle intégré de système de vie dans un territoire contaminé par la radioactivité. L'objectif principal, c'est de modifier la situation en matière sanitaire, de l'améliorer, parce que tout ce que je viens de vous dire sur cette année statistique, c'est une véritable catastrophe. Nous avons choisi les zones les plus touchées pour nos travaux. Donc il faut prendre un ensemble de mesures. La première chose, c'est d'avoir des données objectives sur le degré de contamination du territoire, parce qu'il se trouve que depuis 25 ans, personne n'a vraiment établi une carte de la pollution radioactive du territoire sur lequel vivent 2,5 millions de personnes qui sont officiellement enregistrées dans ces zones de ces zones officiellement reconnues comme zones contaminées. Deuxième grand domaine, la nutrition, les produits alimentaires. Il faut éliminer le césium de tout produit alimentaire. Et il ne faut pas fixer le seuil parce que c'est déjà dangereux en soi. Ensuite, l'information est un élément essentiel. Les gens sont ignorants. Comment se protéger? Que doivent-ils faire? Parce que les gens ignorent tout des doses, rien n'est enregistré, il n'y a pas de système de suivi, il n'y a pas de système de contrôle ou de protection. Donc la situation est de ce fait extrêmement dangereuse. Et la communauté internationale non plus n'a pas les informations objectives indispensables. Le site que nous avons créé, vous y trouvez beaucoup d'informations, Tchernobyl.org, vous y trouvez des informations en plusieurs langues, vous pouvez utiliser ce site, vous y trouverez donc les informations très longues. L'hôpital central de la région n'a pas des conditions nécessaires pour soigner les gens. J'ai ici à nos côtés Michel Rivasi, qui est une personne qui fait un travail extraordinaire, qui a vu cela de ses yeux, qui a constaté de ses yeux de cette situation ridicule, idiote. On a parlé de discrimination, de violation des droits, et bien, nous n'avons plus le temps. Voilà, montrer ces images. Voilà l'hôpital central du district. Sur toutes ces images, vous voyez, ce sont des baraques. Voilà la salle d'opération, voilà la salle de réanimation, voilà la cuisine, le réfectoire. Voilà les conditions, voilà la réalité. Lorsque nous avons, je peux vous assurer que les gens font des yeux énormes quand on leur montre tout cela, ils ne savent pas comment réagir. On ignore que dans les points les plus vulnérables, on ne sait pas que les gens se trouvent dans des conditions de ce genre. Voilà le projet, voilà le plan que nous aimerions réaliser, voilà le plan d'hôpital moderne, de centre médical moderne que nous aimerions faire. Pensez-vous qu'on nous laisse le réaliser? Si vous saviez combien de mal nous avons, combien Michel Rivasi a dû se battre pour qu'on obtienne des ressources, on nous a promis 4 millions, mais il n'est pas sûr encore qu'il puisse être consacré à ce programme. On essaie toutes sortes de démarches pour. C'est un projet qui coûte 17 millions d'euros. Il a déjà été évalué. Il y a déjà une expertise qui a été faite par les experts du comité d'énergie nucléaire. Mais lorsqu'il faut prendre des décisions pour les ressources financières, tout d'un coup, plus rien ne se fait. Bien entendu, il faut aussi prendre d'autres mesures, avoir un centre de réadaptation des victimes de Tchernobyl. Et ce qui est très important aussi, c'est un programme de rééducation pour les enfants qui sont affectés par des maladies cardiovasculaires, parce qu'ils sont si nombreux. Ces enfants, presque tous les enfants dans cette région ont besoin d'une rééducation cardiaque, de soins en matière cardiovasculaire. Il faut surtout d'abord, c'est cesser le contact avec les éléments radioactifs. Il faut également mettre en place des programmes de protection maternelle. C'est très important. Il ne faut pas que les femmes enceintes absorbent du césium radioactif. Cela permettrait d'éviter un très grand nombre de malformations congénitales en concentrant l'attention sur ce groupe. Et puis, bien entendu, il faut aussi mettre en place des technologies qui permettent de produire des aliments propres. Et je souligne encore une fois, les produits alimentaires qui soient adaptés aux organismes de personnes qui ont été pendant longtemps exposées à ce rayonnement intérieur. Sur tous les points, en matière de protéines, d'hydrates de carbone, il y a des insuffisances insulinaires, il y a des problèmes rénaux, des problèmes de pancréatiques chez toutes ces personnes. Ce n'est pas une pathologie évidente, mais c'est une pathologie qui se forme et qui, ensuite, est cause de mortalité. Je vous remercie.